E-Radio, l'invité de la rédaction.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rebecca Amselem. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Vous êtes économiste, entrepreneuse et militante féministe. Vous avez créé Les Glorieuses, un média en ligne qui défend l'égalité entre les sexes et met en lumière le rôle des femmes dans la société. Votre objectif est de construire un monde où les femmes sont pleinement reconnues et valorisées. Les Glorieuses va au-delà d'une simple newsletter. C'est un espace de solidarité pour lutter contre les inégalités. Et vous avez récemment participé à un événement, la réouverture de la Villa Viardot à Bougival, organisée par le Centre européen de la musique, où vous avez partagé votre expertise sur les femmes dans la musique. Une thématique qui nous intéresse tout particulièrement à E-Radio et dont nous allons parler ensemble dans quelques instants. Mais tout d'abord, en tant que fondatrice de Les Glorieuses, pouvez-vous nous en dire un peu plus, Rebecca Amselem, sur cette initiative et comment elle contribue à promouvoir la visibilité des femmes dans la société ?
Oui, bien sûr. Quand j'ai créé la newsletter des Glorieuses, c'était en septembre 2015. Et à l'époque, j'étais en doctorat d'économie sur un sujet qui avait rien à voir avec les femmes et le féminisme. Mais je commençais à me poser des questions sur la question du féminisme et je me disais que s'il y avait beaucoup d'associations qui venaient en aide aux femmes, si jamais il y avait des politiques publiques qui œuvraient concrètement pour améliorer la vie des femmes, je me disais qu'on n'aura pas gagné cette révolution de l'égalité si on n'aura pas gagné la révolution de l'imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai créé la newsletter des Glorieuses pour mettre en lumière des autrices, des penseuses, des intellectuelles qui imaginent la vie d'aujourd'hui et notamment des femmes. Et je voulais les mettre en avant dans la newsletter des Glorieuses.
Comment votre travail, que ce soit à travers les Glorieuses ou d'autres initiatives, vise-t-il à remettre en question et à dépasser les représentations traditionnelles ?
Je vais prendre un exemple parce que c'est un projet, une opération qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. C'est l'opération « Il reste encore demain » qui est un film italien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Un film italien vraiment lumineux, en noir et blanc, féministe, drôle. Et en fait, qui raconte vraiment en 2 heures, de manière très intelligente, l'importance de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et en fait, c'est une sorte de dictateur de Chaplin en version féministe. Et en voyant ce film, je me suis dit que ces 2 heures de film faisaient plus le job que 1000 heures de formation et d'intervention auprès des jeunes sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, on a mis en place une opération grâce, par exemple, au Fonds L'Oréal pour les femmes, pour faire en sorte qu'un maximum de scolaires puissent aller voir le film gratuitement, partout en France. Donc là, pour l'instant, je crois qu'à date, il y a un peu plus de 2500 scolaires qui en ont bénéficié, et on vise les 10 000 scolaires. Et en fait, je suis convaincue que par les arts, par la culture, on fait avancer les choses 1 milliard de fois plus vite que par les études ou par les interventions.
Et différemment aussi. Comment percevez-vous le paysage actuel du féminisme, en particulier en Europe, et quelles évolutions aimeriez-vous voir dans les années à venir ?
Je pense que le mouvement féministe est extrêmement vaste. Il est extrêmement vaste parce que je suis convaincue qu'il existe autant de féminisme qu'il existe de femmes. Je pense que chaque femme vit sa condition de femme selon qui elle est, selon le pays où elle est, selon son origine, selon sa religion. Et donc je pense qu'il y a une mosaïque très diverse du paysage féministe aujourd'hui. Et si jamais on veut replacer le mouvement féministe dans le contexte européen, je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir une ligne conductrice, un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est vraiment la liberté des droits, la garantie des droits reproductifs en Europe. On voit qu'en Europe, en fait, on n'est pas obligé de garantir les droits reproductifs et la liberté de reproduction des femmes pour faire partie de l'Europe. À date, il y a 2 pays qui remettent gravement en question les droits des femmes, et c'est Malte et la Pologne. Pas plus tard que cette semaine, le président polonais a refusé, par exemple, de faire en sorte que la pilule du lendemain soit vendue en libre accès dans les pharmacies, alors que c'est une volonté du Premier ministre. Et je pense qu'il y a tout intérêt à qu'il y ait une unité féministe européenne, ne serait-ce que pour garantir les droits fondamentaux des femmes.
Il y a une vraie différence, parce que vous êtes franco-canadienne, il y a une vraie différence, vous la mesurez, la différence peut-être entre la France, l'Europe et le Canada ?
Je pense que cette différence, elle est avant tout culturelle. Elle n'est pas en termes de droit, on est à l'égalité. En revanche, dans l'application de ces droits, effectivement, il y a une différence. Et je prends un autre exemple qui est un de mes combats que je soutiens particulièrement, qui est le combat pour l'égalité salariale, puisque tous les ans, on fait en novembre une journée de sensibilisation qui représente le moment où les femmes devraient théoriquement s'arrêter de travailler du fait des inégalités de salaire. On voit qu'en France, on n'y est vraiment pas. Les inégalités de salaire en France sont de l'ordre de 25%, alors qu'elles sont moindres au Canada. Donc ça, c'est pour le salariat. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, on voit qu'il y a 1% des fonds qui sont levés par des entrepreneuses. On voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses de femmes parce que ça représente quand même, de mémoire, 48% du corps entrepreneurial, mais qu'elles se rémunèrent pas ou peu. Donc on voit qu'il y a une précarité économique en France qui est très marquante et sur lequel, en fait, on doit avoir un courage politique un petit peu plus prononcé que celui qui existe aujourd'hui.
Alors nous allons maintenant revenir à la thématique qui nous intéresse, Rebecca Amselem, les défis et obstacles des femmes dans l'industrie musicale. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels ces femmes ont été ou sont encore confrontées aujourd'hui dans l'industrie musicale ?
Georges Chalamet et Philippe Guimet m'avaient demandé de m'intéresser à la question des compositrices. Donc c'était vraiment sur cette question-là que j'ai écrit un petit texte pour La Vie, la Journée à La Villa Viardot. Et en fait, je suis partie d'un chiffre qui est le chiffre de la SACEM qui dit que 1% des compositeurs programmés entre 2012 et 2017 sont des compositrices. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce rapport de 99-1 en termes de programmation musicale pendant cette période de 5 ans. Et en fait, en partant de ce constat que je trouve assez affligeant, hein, pour ne pas dire des mots plus forts que celui-ci. J'ai essayé de tisser pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'on pouvait déjà analyser et comprendre l'existence de ce chiffre de 1% et comment faire en sorte que ce soit finalement plus le cas.
Pourquoi ces femmes sont-elles invisibles dans la musique et pourquoi ce problème persiste-t-il encore aujourd'hui ?
J'ai émis plusieurs hypothèses qui sont plus ou moins absurdes pour montrer aussi l'absurdité de ce chiffre. La première hypothèse, c'était que, en fait, les femmes sont invisibles parce qu'elles ne composent pas. Donc, évidemment, si jamais elles ne composent pas, elles ne peuvent pas être représentées. On voit évidemment que c'est faux dans les faits, mais que effectivement, il n'existe pas suffisamment de politiques publiques ou des éléments qui leur permettraient d'être dans un environnement idéal pour composer. Donc, c'est quand même une hypothèse qui n'est pas complètement invalide. L'idée. Elles composent moins que les hommes, certes, et donc il faut faire en sorte que ce soit plus le cas. Une deuxième hypothèse, c'est de dire que c'est une question de goût aussi, que les femmes composent, mais que ce qu'elles composent, bah en fait, c'est pas super. Et je tourne cette hypothèse à escient en ridicule. Mais au final, en fait, il y a une question très intéressante qui est la question du goût. La question du goût est extrêmement politique. Le goût est forgé par des personnes qui ont la légitimité de dire ce qui est considéré comme bien ou pas bien. Et c'est une question éminemment politique. Et une troisième hypothèse, c'est de dire que les compositrices existent, ce qu'elles font est beau ou reconnu comme beau en tout cas, mais qu'en revanche, leur composition n'entre pas dans la postérité. Et c'est vraiment le cas, par exemple, de Pauline Viardot qui a donné le nom à La Villa. C'est quand même une compositrice de renom qui a fait une carrière absolument incroyable. Son mari a raccroché sa carrière d'ailleurs pour se consacrer entièrement à la carrière de sa femme et à l'éducation de ses enfants. Elle avait énormément de succès et pourtant, dans la postérité, elle est très peu reconnue aujourd'hui. Et en fait, une fois de plus, c'est une question éminemment politique. Ce qui rentre dans la postérité aujourd'hui, c'est décidé par quelques personnes. Et je ne dis pas que ces personnes ont un agenda antiféministe, loin de moi cette idée, et puis loin de moi l'idée d'émettre des théories complotistes sur la question. En revanche, dès lors qu'on ne prend pas en considération la question de l'égalité dans la postérité, c'est vrai que les femmes ont tendance à passer à la trappe.
Ça veut dire que les médias et les plateformes de streaming ont un rôle à jouer dans la promotion des femmes artistes ?
Oui, je pense que tout ce qui est d'ailleurs algorithme et intelligence artificielle a certainement quelque chose à jouer dans la place des femmes artistes, la place des femmes intellectuelles en règle générale. Et pour faire en sorte que les femmes ne passent pas à la trappe, que ce soit dans le domaine de la musique ou des autres arts d'ailleurs, il faut qu'il y ait une politique proactive pour faire en sorte qu'elles existent.
En quoi la représentation des femmes dans l'industrie musicale reflète-t-elle peut-être encore des luttes plus larges pour l'égalité des sexes dans la société ?
Je pense que c'est une question de moyens, déjà, dans un premier temps. C'est ce que j'essayais de dire un peu précédemment. C'est que si jamais on veut faire en sorte d'atteindre une forme d'égalité, il faut qu'il y ait une politique proactive. On parle souvent de la politique des quotas en entreprise. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée d'intégrer cette notion de quota dans le domaine de la musique, par exemple, dans les écoles de musique, par exemple, dans les œuvres qui sont étudiées au sein des études musicales. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut certainement prendre en compte pour faire en sorte de contribuer à la visibilisation des femmes artistes.
Alors, je le disais en préambule, vous avez participé à l'événement du Centre européen de la musique à la réouverture de la Villa Viardot à Bougival sur le thème de l'éternel féminin. Comment vous définissez le concept de l'éternel féminin dans le contexte de votre engagement féministe et de votre travail dans les domaines de la culture et de la musique ?
Eh ben, en fait, moi, je le vois plutôt d'une manière qui est tout à fait singulière puisque c'est la mienne, mais on a tendance à parler, quand on parle de féminisme et d'engagement féministe, on dit « les femmes parlent enfin, elles dénoncent enfin leurs agresseurs, elles racontent enfin ce qui leur est arrivé ». Et moi, ce que j'ai tendance à penser dans ces moments-là, c'est que en fait, les femmes, elles ont toujours parlé, elles ont toujours raconté ce qui leur arrivait. En revanche, il existait au sein de notre société une propension à ne pas les croire, à faire en sorte de ne pas les croire pour protéger peut-être certaines personnes, et je pense que c'est une des raisons tout à fait tangibles qui permet de l'expliquer. Et pour moi, cette notion d'éternel féminin, c'est de dire que, en fait, les femmes ont toujours composé, elles ont toujours été présentes dans la musique, et maintenant, à nous de revisibiliser ce qu'elles ont déjà fait.
Diriez-vous que les artistes et les créateurs contemporains peuvent déconstruire les idées préconçues liées à l'éternel féminin à travers leur travail ?
Je pense qu'être artiste aujourd'hui comme hier, c'est vraiment de pas casser les codes, parce que je suis pas tout à fait à l'aise avec cette expression, mais en tout cas de penser un monde qui n'existe pas forcément. De créer un imaginaire qui, en tout cas de retranscrire un imaginaire qui n'a pas forcément été retranscrit jusqu'à présent. Et dans ce contexte-là, je pense que de facto, en fait, la singularité qui va avec l'interprétation de cet imaginaire fait qu'on va au-delà de ce qui est féminin ou masculin, ou d'être doux quand on est féminin ou fort quand on est masculin. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas soutenable sur le long terme pour chaque personne, en fait. Je pense que les hommes et les femmes ont leur propre caractère, et je pense qu'en dehors, en tout cas, de l'espace public, la notion de stéréotype est beaucoup moins flagrante. Et en revanche, ce que j'espère aujourd'hui, avec tout le travail qu'on essaye de faire en tant que médias féministes et engagés, c'est de faire en sorte que ces personnalités qui ont tendance à être davantage vécues dans l'espace privé soient plus montrées dans l'espace public.
Dernière question, Rebecca Amselem. En tenant compte de votre propre expérience et de votre engagement féministe, quel message pourriez-vous transmettre aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière dans l'industrie musicale ?
Ce serait allez-y. Franchement, allez-y. Vous avez quelque chose à dire. En fait, je pense que je suis convaincue que les femmes, et les hommes d'ailleurs, je ne suis pas du tout en train de dire que les hommes devraient moins composer, vraiment loin de moi cette idée, mais je pense que quand on a une appétence pour un art, quel qu'il soit, que ce soit la musique, l'écriture, le film, l'image, et qu'on veut retranscrire son monde, je pense que c'est le plus beau cadeau au monde que d'avoir le courage de le faire. Donc vraiment, allez-y.
Donc on peut imaginer un avenir de la musique en termes d'inclusion et de représentation des femmes.
Moi, je pense, et je pense que c'est aux politiques publiques, je pense que c'est aux fondations, je pense que c'est à toutes les personnes qui ont les capacités pour créer un environnement financier sécure pour les artistes et les futurs artistes de se poser cette question-là.
Merci Rebecca Amselem.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.